ce matin, je suis heureux d'être ici et de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Vous savez, je vous ai déjà partagé, ça fait un petit bout là, mais que quand je suis venu au Seigneur, moi j'avais 18 ans, et puis j'étais un jeune homme de Shawinigan Sud qui allait vivre une expérience extraordinaire au tabac, hein, aller à la récolte de tabac en Ontario. Et là, c'était l'aventure, ma vie enfin s'ouvrait à moi. J'étais un jeune adulte et plein de pep et plein de désir d'expérimenter la vie et de goûter à la vie pleinement et de tout ce que la vie pouvait m'offrir de belles choses. Hein? Puis là, un jeune de 18 ans, ben c'est ça, il y avait toutes sortes de... J'en avais des idées, autrement dit. Et là, j'ai entendu parler de l'Évangile, imaginez-vous. Et en lisant justement les évangiles, comme là on fait l'évangile de Marc, et moi j'avais commencé dans Matthieu, et après ça je continuais dans Marc, après ça je suis allé dans Luc, Jean, et là je lisais comme ça, puis moi j'ai été sidéré. Je ne m'attendais pas à ça en lisant l'évangile. J'avais entendu parler de Dieu, j'avais entendu parler de Jésus, et les histoires et tout ça, mais c'était la première fois de ma vie que d'une façon comme ça, là, assez régulier, jour après jour, je lisais, même si je vous avais dit que je consommais du hashish à ce moment-là, et j'ouvrais la Bible, et là, je me reposais, je lisais, puis là, je tripais, comme on peut dire. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit a outrepassé ça, puis est venu toucher mon cœur, puis là, j'ai laissé ça, la drogue, de côté, puis là, je lisais à jeun, ou sans aucune influence quelconque, parce que là, j'étais piqué au cœur. Et là, je voulais en savoir plus. Et j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Je me rappelle la journée, je me rappelle de où j'étais, je me rappelle de certaines questions que j'ai posées, mais je me rappelle surtout du moment où j'ai prié. Et là, j'ai demandé à Jésus de me sauver, de pardonner mes péchés. Et je me souviens encore de ce qui s'était passé en dedans de moi. Et là, de cette réalité que là, j'étais sauvé, que je connaissais Jésus comme mon sauveur, puis il avait pardonné tous mes péchés, puis j'allais au ciel, j'avais l'assurance de la vie éternelle. Et là, j'étais tellement excité, ça n'avait pas d'allure, tu sais. C'était comme, waouh, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis là, moi, je me suis dit, hey, j'ai assez hâte de revenir chez nous. J'ai assez hâte de revenir avec mes chums, dans mon patelin. Puis là, je vais tout leur expliquer ça, puis ils vont tout accepter le Seigneur. Moi, j'étais convaincu, je vous dis, là, j'étais sûr. J'ai dit, c'est ben trop beau, c'est ben trop fantastique, c'est ben trop incroyable, c'est ben trop simple, c'est pas une religion, c'est Jésus. Puis là, il est mort à la croix, puis là, il veut nous pardonner nos péchés, puis là, il veut changer notre vie. Puis là, c'était comme, « Hey, il n'y a rien de mieux sur la terre que ça. » Et là, naturellement, j'avais déjà commencé à témoigner à travers des petites cartes postales, des lettres, tout ça que j'envoyais à Shawinigan, à ma famille en particulier. Et là, quand je suis revenu, c'était... Là, ça a été... Là, j'ai pogné de quoi. Là, je vous le dis, je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Puis c'est comme, plus j'essayais de parler de Jésus, plus c'était difficile, puis plus il y avait de réactions négatives. Et le titre du message de ce matin, c'est « Pourquoi personne ne veut de Jésus? » Quelle place occupe Jésus dans la pensée collective des Québécois aujourd'hui? En l'an 2011. En fait, c'est un sondage qui était fait en 2010, donc c'est pas tellement vieux. Je pense pas qu'il y a une grosse différence entre 2010 et 2011. Mais c'est un sondage qui était fait par, qui était publié dans la revue qui s'appelle Présence Magazine, mars-avril 2010. Puis le sondage avait été fait par la maison Crop. Et ça démontre que Jésus semble toujours bien ancré dans le psychisme des Québécois. C'est un peu l'expression qu'il donne. Il y a eu 950 répondants et 76% affirment bien ou assez bien connaître Jésus. Et 52% sont désireux d'en apprendre davantage sur lui. Alors ça semble être encourageant. Plus de la moitié se disent impressionnés par Jésus et près du tiers le qualifient de modèle de vie. Ça, c'est la pensée collective des Québécois. Si ça reflète bien ça, naturellement, s'il y a à peu près 1000 personnes qui ont répondu à ça. Il y avait seulement 23 % qui le voient comme étant un personnage inventé, un peu comme un mythe ou il n'a jamais existé autrement dit. Mais il y a juste 23 % qui pensent ça. C'est encore quand même beaucoup, mais... Même pour les athées, les agnostiques ou les gens sans religion, sa figure serait incontournable. Néanmoins, le même sondage observait qu'il y avait une érosion de la foi, car moins de 3 Québécois sur 4 disent croire en Dieu. Un taux plus bas qu'aux récentes études statistiques. Donc, c'est comme si ça baisse. De plus, pense-t-on, ce phénomène va aller en croissant, car 34 % des jeunes qui ont de 18 ans à 34 ans, donc l'âge où moi j'ai entendu l'Évangile, se déclarent athées ou sans religion par rapport à 19 % de la population en général. Donc, plus on est jeune, moins on croit en Dieu. Ça, c'est un constat actuellement. Moi, c'est sûr, du temps de ma génération, je pense que majoritairement, la jeunesse, les jeunes croyaient en Dieu. Je crois que, même si vous comprenez qu'il n'y avait pas de pratique religieuse. Les jeunes aussi sont moins impressionnés par Jésus. Alors, seulement 44 % contrairement aux plus âgés qui sont à 64 % impressionnés par Jésus. Par contre, on remarque, non sans étonnement, que seulement 43 % des catholiques perçoivent avant tout Jésus comme le Fils de Dieu. Alors, même si Jésus impressionne, il y a juste 43 % et là, même des catholiques qui voient que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, donc, un personnage peut-être historique, mais Fils de Dieu, ça, c'est plus compliqué. Qui, naturellement, que Jésus soit le Fils de Dieu, ça demeure un aspect fondamental de la foi chrétienne. C'est vraiment un article de foi qui est au cœur du christianisme. Bon nombre de Québécois composeraient donc eux-mêmes leur credo. Autrement dit, chacun d'eux croit ce qu'il veut croire, Jésus y est ce qu'ils veulent qu'il soit. Et là, ce qui était intéressant aussi, c'était de voir qu'un homme qui s'appelle Brian McDonough, je ne sais pas si c'est celui qui est... Non, je ne dirais pas. Le directeur des œuvres de la paroisse sociale du diocèse, les réponses au sondage soulèvent une question. Les 3/4 des répondants affirment bien connaître Jésus, observe-t-il, mais au juste, qu'est-ce qu'ils connaissent de lui? Alors, voyez un petit peu la différence. À vrai dire, si l'historicité de Jésus n'a fait plus aucun doute, ou presque, son personnage et sa vocation suscitent un peu partout dans le monde, comme au premier siècle du christianisme, des interrogations et des interprétations contradictoires. Autrement dit, encore aujourd'hui, Jésus suscite de la controverse. Il ne fait pas l'unanimité. Et certains ont une idée, d'autres ont une autre idée, et ainsi de suite, et parfois chacun se fait une idée. Les évangiles et le récit biblique d'aujourd'hui vont mettre en évidence un fait troublant. La majorité des gens qui ont entendu l'enseignement de Jésus, qui ont vu ses œuvres puissantes, ne croient pas en lui. C'est troublant, ça. Même du premier siècle, même les gens là, qui étaient en première ligne, dans les premières loges, qui l'ont entendu et qui l'ont vu, ce qui est frappant et qui est troublant, c'est qu'au lieu de se jeter à genoux et de l'adorer, et de le recevoir comme étant le Messie, le Dieu promis et tout ça, ils n'ont pas cru en lui. Et ce qui soulève pour moi cette question, pourquoi personne ne veut de Jésus? Prions ensemble. Seigneur Jésus, si tu étais venu en espérant être cru par la majorité des gens, eh bien, tu serais venu en vain. Parce que toi-même, tu avais dit que large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup s'y engagent. Mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, et peu y sont. Seigneur, c'est un fait troublant que de réaliser que malgré toutes les preuves que tu as données de ta personne, malgré toute la bonté que tu as manifestée, la grâce qui, à chaque jour, était en train de toucher des vies, de faire du bien, malgré tout cela, Seigneur, la majorité n'ont pas cru en toi. Ô Seigneur Jésus, ouvre nos yeux pour que nos cœurs puissent, ce matin encore, réaliser à quel point c'est une grâce lorsque un cœur s'ouvre et qu'il se tourne vers toi et que par la foi, crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Sauveur promis et qu'il crie à toi pour que tu le deviennes dans sa vie. Seigneur, même parmi tes disciples, certains ont remis en question leur engagement vis-à-vis de toi parce qu'ils n'ont pas compris, parce que ce que tu étais, ce que tu représentais était trop et ils t'ont abandonné ou renié. Seigneur, si ce n'était de ta grâce, aucun de nous ne pourrait croire en toi, ne pourrait s'attacher à toi et marcher derrière toi. Seigneur, rencontre-nous ce matin dans ta bonté, dans ta grâce. Que ta parole nous touche encore ce matin. Que ta parole nous révèle à quel point tu étais unique en soi. Et que, Seigneur, c'est par pure grâce si nous sommes là ce matin. Et que toi, tu es patient. Toi, tu es un Dieu qui nous pardonne encore et encore et encore. Car tu connais notre faiblesse. Tu sais, Seigneur, de quoi nous sommes faits et tu sais à quel point que sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur. Gracie-nous ce matin, Seigneur Jésus, que si nos cœurs sont en train de questionner ce que tu fais, comment tu agis, pourquoi tu agis pas, pourquoi tu fais pas ce qu'on pense que tu devrais faire, ou pourquoi tu laisses certaines choses arriver qui ne devraient pas arriver? Ou pourquoi ceux qui sont autour de nous ne se tournent pas vers toi, puis ça nous trouble? Ça nous heurte intérieurement. Ô Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux pour que nos cœurs puissent se tourner vers toi. Et qu'on puisse te demander de nous aider à s'attacher à toi, à t'aimer, à te suivre. Merci Seigneur Jésus, merci d'être là, merci de nous aimer et de vouloir prendre soin de nous. À toi la gloire. Amen. Le récit biblique est dans Marc 15, je vais lire les versets 1 à 22 ce matin pour nous mettre un peu dans l'histoire. Alors, Marc, chapitre 15, versets 1 à 22. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien? Vois tout ce dont il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Verset 6, « À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. » un nommé Barabbas était en prison avec des émeutiers pour avoir, lors d'une émeute, commis un meurtre. La foule monta et se mit à demander ce qu'il avait coutume de faire pour eux. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» en parlant de Jésus. Car il savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les principaux sacrificateurs soulevèrent la foule pour que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit, « que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Il cria de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort, crucifie-le! Pilate voulait satisfaire la foule et leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Les soldats emmenèrent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Et appelèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines tressées. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissaient les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne ». Et on arrête ici la lecture. Alors, quels sont les événements marquants de la trahison ou de la crucifixion de Jésus? Alors, dans la nuit du jeudi au vendredi, on sait que Jésus est trahi par Judas. Il est abandonné des siens et arrêté par les soldats romains dans le jardin de Gethsémané. Jésus est injurié alors, frappé et humilié. Ensuite, on voit qu'il est conduit chez Anne, le beau-père de Caïphe, afin de comparaître pour une première fois. En fait, c'est comme un premier procès qui, en passant, selon la loi juive, ne pouvait condamner à mort un coupable. Ils ne pouvaient pas faire ça pendant la nuit. Mais ils l'ont fait quand même. Alors, il est conduit à ce moment-là devant Caïphe, le Sanhédrin, et puis il est questionné, puis là, il est jugé et il est condamné. Et pendant ce temps-là aussi, ce qu'on voit, c'est que Pierre, qui avait dit que jamais, jamais il l'abandonnerait, jamais il ferait ce que les autres disciples peut-être feraient, il renie ici trois fois Jésus. Ensuite, on voit dans la journée de vendredi, et c'est ce qu'on voit ici au chapitre 15. Alors, dès l'aube, ce qui est environ 6 heures le matin, Jésus comparaît à nouveau. Donc ici, c'est comme ils veulent officialiser ce qui s'est passé pendant la nuit. C'est comme s'il y avait un deuxième procès, mais on sait déjà le verdict. Alors, c'est pour respecter ici la lettre de la loi, mais non pas naturellement l'esprit de la loi. Donc, Jésus, à l'aube, est conduit devant Caïphe et le Sanhédrin. Et ensuite, on voit qu'il l'emmène à Pilate, parce qu'une fois qu'il est jugé par eux, la loi ne leur permettait pas de mettre à mort un condamné qui avait été trouvé coupable. Alors là, il est conduit vers Pilate pour y subir un troisième procès. C'est seulement les autorités romaines qui avaient le droit justement de condamner à mort une personne. Alors c'est pour ça qu'ils doivent l'emmener à Pilate. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que Pilate, qui ne voulait pas condamner Jésus, ne semble pas trouver en lui la culpabilité dont les autorités juives l'accusent, Pilate, d'une façon un peu détournée, l'envoie vers Hérode. Et Hérode, qui l'interroge à nouveau, et là donc on voit que Jésus subit un quatrième procès. Voyant que Jésus ne répond pas au questionnement d'Hérode, Hérode, tout ce qu'il fait, c'est qu'il s'est moqué de lui, et là il l'a revêtu d'un habit éclatant, et il a renvoyé Jésus devant Pilate. Donc c'est comme si Jésus est un peu la patate chaude que personne ne veut. Ce jour-là, le texte nous dit dans Luc 23, 6 à 12, que Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient autrefois. C'est comme si Hérode avait aimé l'attention que Pilate lui a fait, parce qu'Hérode, dans le fond, avait un intérêt par rapport à Jésus, qui était un peu un intérêt de curiosité, voyait Jésus comme un faiseur de miracles, et là voulait voir Jésus performer devant lui un miracle, ce que naturellement Jésus a refusé de jouer ce jeu-là. Mais il semble que ça l'a quand même flatté Hérode, que Pilate l'ait envoyé vers lui, et c'est pour ça qu'ils sont devenus amis à ce moment-là. Donc Pilate, c'est-à-dire Jésus retourne vers Pilate. Pilate, à ce moment-là, le fait battre de verge. Et Jésus, les soldats romains, l'humilient en mettant sur sa tête une couronne d'épines, sur son dos un manteau de pourpre, tout en le giflant au visage et en se moquant de lui. Et Pilate finit par livrer Jésus à la volonté du peuple. Et on sait ici que c'était un motif qui était purement politique. Il ne voulait pas attirer l'attention de Rome sur sa gouvernance. Et là, on sait qu'il y avait un tumulte de plus en plus grand qui montait parmi les Juifs à cause des souverains sacrificateurs et de toute la gamme des autorités juives qui montaient la foule et manipulaient la foule d'une certaine manière pour justement mettre Pilate dans l'eau chaude et sentir que si je fais rien, si je leur donne pas ce qu'ils veulent, il va y avoir toute une émeute qui va se passer ici, un peu comme on a vu avec la coupe Stanley et ce qui s'est passé à Vancouver. Et lui, il voulait pas ça. Il était déjà dans l'eau chaude à ce moment-là à cause de d'autres circonstances politiques, et c'est comme si Pilate voulait pas que, encore une fois, Rome ait un mauvais rapport de sa gouvernance. Donc Pilate, juste pour se laver les mains, a donné Jésus à la foule. Mais naturellement, il trouvait pas motif de condamnation dans ce que les autorités juives donnaient par rapport à qu'est-ce que Jésus avait fait. Et on sait que Jésus est crucifié sur le mont Golgotha de 9h le matin à 15h l'après-midi, avant d'être enseveli en début de soirée par Joseph d'Arimathée. Maintenant, voici la question qui tue. Pourquoi personne ne veut de Jésus? Parce que ce qu'on voit ici dans Marc 15, tout comme on a vu dans Marc 14, c'est que Jésus n'est pas désiré, voulu, par personne. Il n'est même pas l'ami de personne, et comme tout le monde veut se débarrasser de lui. Maintenant, ce qu'on sait des leaders religieux, dans Marc 14, 55, on voit qu'ils ont cherché un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Ça, c'était leur intention. Dans Marc 14, 56, ça dit que plusieurs rendaient de Jésus un faux témoignage. Donc, ils cherchaient des excuses pour le condamner. Mais même les témoignages, ils n'arrivaient pas à trouver deux personnes qui disent la même chose contre Jésus. Alors là, ça n'a pas pu fonctionner. Donc, ils ne pouvaient pas trouver deux témoins venant dire quelque chose qui était similaire par rapport à Jésus et qui était sérieux assez pour le condamner. Et finalement, au verset 64 de Marc 14, ça nous dit ceci: « Vous avez entendu le blasphème. » Ici, c'est le souverain sacrificateur qui le dit. Jésus avait répondu par l'affirmative à sa question, qui était « Est-ce que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? » Et en disant « Oui, je le suis », pour eux, c'était « Voilà, on n'a pas besoin d'autres témoignages. Jésus vient de commettre un blasphème parce qu'il s'est fait Fils du Dieu béni, le faisant ainsi égal à Dieu, ce qui était non pardonnable, un blasphème. » Mais naturellement, vous comprenez, ça c'est pour les Juifs, c'était suffisant ça. Mais pour Pilate, il ne voulait rien savoir de ça. Lui, c'est une question religieuse, une question de leur religion à eux. Il ne voulait pas avoir affaire avec ça. Alors c'est sûr que quand ils sont allés vers Pilate, ce qu'on voit par la suite, ce qui s'est passé, ça dit qu'ils portèrent contre lui plusieurs accusations. Et quelles étaient ces accusations? Luc nous donne des lumières là-dessus. Luc, au chapitre 23, verset 2, ça dit ceci, ce qu'ils ont invoqué dans le fond devant Pilate. « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte. » Voyez, il n'est plus question qu'il est le Fils de Dieu, là. « Empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. » Alors, ce qui devenait une menace pour Rome, en tout cas dans leur pensée. Alors, naturellement, Pilate a examiné ça et lui n'a pas trouvé encore là motif pour dire « Non, c'est pas vrai, je vois pas comment est-ce qu'il peut faire ça, lui. Je vois pas en quoi qu'il excite la nation à la révolte. Je vois pas non plus en quoi qu'il essaie d'exercer les gens à pas payer le tribut. » Puis en fait, vous savez, Jésus avait fait le contraire, parce que quand il avait dit « OK, emmenez-moi une monnaie romaine », puis là, il a dit « OK, qu'est-ce que vous voyez dessus la monnaie? Quelle est l'image qui est dessus? » Ah, mais il dit « C'est César. » Qu'est-ce que Jésus avait répondu? Alors, jamais il avait enseigné que non, ne payez pas votre tribut à Rome. Donc, c'était une fausse accusation. Mais Pilate n'était pas fou. Et Pilate avait deviné que c'était par jalousie qu'il cherchait un motif à le condamner. Donc, ici, on voit que même ces motifs-là n'étaient pas valables. Et là, ça dit au verset 5 de Luc 23, ça dit même que là, ils ont insisté auprès de Pilate, et là, ils ont dit, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Et là, ils ont vraiment essayé de convaincre Pilate que Jésus était une nuisance pour Rome, et que si tu fais rien par rapport à lui, tantôt, c'est toi qui vas être dans le trouble, parce que t'auras rien fait, autrement dit, pour prévenir ça. Maintenant, quels étaient les vrais motifs de leur rejet? Alors, vous et moi, et même Pilate, savaient que c'était par jalousie. Mais regardez que ça dit dans Matthieu 27, 18. Car Pilate savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs et les anciens avaient livré Jésus. Donc, c'est clair pour Pilate. Ensuite, Luc 16, 14, ça dit les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de Jésus. Donc ici, il y a une précision qui nous est dit aussi. Leur vrai motif, c'était l'avarice. Luc 16, 15, Jésus leur dit, « Vous, vous êtes ceux qui se font passer pour juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Donc, ici, on voit qu'ils avaient de l'orgueil. Non seulement ils avaient de l'avarice, non seulement ils avaient de l'envie, de la jalousie, mais ils avaient aussi de l'orgueil. Eux, ils cherchaient à bien paraître et avoir des positions élevées devant les hommes. Matthieu 22, 18, Jésus dit, « Connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous hypocrite? » Alors, Jésus connaissait leur cœur. Ils n'avaient aucun intérêt pour Dieu, aucun intérêt pour la gloire de Dieu, aucun intérêt pour que la vérité éclate. Mais c'était par des motifs mauvais. Ils avaient de la méchanceté dans leur cœur. Matthieu 22, 29, Jésus leur dit aussi, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Fait qu'ils étaient complètement dans le brouillard par rapport aux Écritures. Et la raison, c'est parce que leur cœur n'était pas à la bonne place. Et finalement, dans Matthieu 23, où Jésus donne toute une série d'enseignements, où il les blaste, vraiment, il est en train de les passer au blender, hein, au moulin à viande, il leur dit, par exemple, qu'ils sont pognés dans le légalisme, qu'ils sont orgueilleux, encore là, l'avarice, ils sont aveugles spirituellement, leur cœur est dur, ils ont des impuretés intérieures, ils nettoient l'extérieur, mais l'intérieur est plein d'impuretés. Alors, montrez encore là leur hypocrisie, et ils montrent aussi la violence qui anime leur cœur. C'est incroyable de voir à quel point ces leaders-là étaient complètement à côté de la traque. Et leur cœur était à côté de la traque. Et c'est pour ça que quand que Jésus s'est présenté à eux, c'est simplement toutes ces choses-là que Jésus a vues dans leur cœur. La méchanceté, l'avarice, l'orgueil, l'hypocrisie, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui était le problème avec le peuple? Pourquoi est-ce que le peuple ici ne voulait pas de Jésus? Alors, la foule qui était présente, elle a été persuadée par les autorités religieuses de rejeter Jésus. Il semble qu'ici, ils ont été manipulés. Certains pensent qu'elle était composée en grande partie des gens sympathisants aux accusations des leaders juifs, comme si ils avaient recruté plusieurs personnes pour dire « Venez, on s'en va rencontrer Pilate », et ça faisait partie de la game, autrement dit. Ils avaient des agents infiltrant la foule pour emmener la conclusion qu'ils voulaient emmener. Certains aussi croient que la foule était plutôt composée de gens sympathisants à la cause de Barabbas, donc pour le faire relâcher. Pour d'autres, il s'agit tout simplement de gens du peuple, et en partie les mêmes gens qui avaient accueilli Jésus une couple de journées avant, en disant « Hosanna, Hosanna, bienvenue au Fils de Dieu, au Messie ». Mais ces gens-là se sont tout simplement laissés manipuler par des agitateurs de foule, comme on voit parfois dans certains événements où il y a des gens intentionnellement qui sont là pour faire tourner ça au vinaigre et finalement qu'il y ait toute une émeute qui arrive. Jean 1, 9 à 11 nous dit ceci, en parlant de Jésus, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. » Et là, il dit « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Pourquoi? Pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas reçu Jésus qui était la lumière du monde? Bien, un peu plus loin au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, Jean nous donne la raison principale. Ça dit ceci au verset 18 et 19 de Jean 3, juste après Jean 3, 16 qu'on connaît tous, que Dieu a tant aimé le monde. Il dit ceci, « Celui qui croit en Jésus n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est ceci, la lumière étant venue dans le monde et chez les siens, les hommes et donc les siens, les Juifs, ont préféré quoi? Les ténèbres à la lumière. » Donc ici, c'est comme, il y a un choix qui devant la lumière, je refuse la lumière et je choisis les ténèbres. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut refuser la lumière, peut refuser Jésus? C'est ce qui dit le texte. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est troublant. C'est comme si je ne veux pas... Moi, sais-tu à quoi ça me fait penser? À ma mère. Ma mère, elle est décédée. Mais à un moment donné, elle est tombée malade. Puis là, c'était au niveau des poumons, c'était comme une genre de pneumonie, et ça persistait. Ça persistait, mais elle ne voulait pas aller voir le médecin. Puis elle voulait pas aller voir le médecin. Puis là, on était pratiquement les 10 enfants, elle dit, « Maman, va voir le médecin. » « Non, je ne vais pas voir le médecin. » « Non, je ne vais pas voir le médecin. » Vous savez, hein? Bonne femme québécoise. « Non, je n'irai pas voir le médecin. » « Pourquoi j'irai voir le médecin? » « C'est correct, il m'a guéri, ça va bien aller, pas de problème. » « Maman, faut-il aller voir le médecin? » « Non, j'irai pas voir le médecin. » « Arrêtez donc de m'achaler. » Mais là, ça empirait. À un moment donné, elle est allée voir le médecin. Mais là, elle l'a regardé dans les yeux. Puis là, je ne vous dirai pas tout ce qu'elle a dit. C'était assez cru. Mais elle a dit, « Hum, t'es mieux de pas me dire que j'ai un cancer. » Et savez-vous ce qu'il a fait, le médecin? Il lui a dit qu'elle avait un cancer. Parce qu'elle avait un cancer. Et savez-vous ce que ma mère a fait en réponse? Elle lui a donné un coup de poing dans le ventre. Drette de même. C'est vrai ce que je vous dis là, là. Ma mère lui a donné un coup de poing dans le ventre. Puis là, elle a rajouté d'autres choses avec ça que je vous dirai pas. En disant, je te l'avais dit de pas me le dire. C'est pas vrai. Puis ma mère, jusqu'à la dernière minute, son dernier souffle, elle a jamais voulu admettre qu'elle avait un cancer, qu'elle allait mourir, malgré qu'elle était dans des souffrances épouvantables. Et elle n'a jamais voulu prendre aucune drogue pour calmer sa souffrance. Et si vous savez ce que c'est un cancer du poumon, c'est un des cancers qui est le plus douloureux. Mais jusqu'à la fin, ma mère n'a pas voulu. Savez-vous pourquoi? Parce que si elle prenait de la drogue, ça voulait dire qu'elle avait un cancer. C'était pour en mourir. Je ne comprends pas. Mais c'est la même réalité. Pourquoi personne ne veut de Jésus? Je ne veux pas regarder la vérité en face. Je ne veux pas admettre que je suis pécheur. Je préfère les ténèbres à la lumière. Vous savez, des fois, on a l'image de gens qui courent, puis cognent à la porte du ciel. « Laissez-moi entrer, oh Dieu, s'il vous plaît, pitié, laisse-moi entrer, Seigneur, laisse-moi entrer. » Puis là, c'est comme si Dieu ne les laisserait pas rentrer. Mais ça, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai que les gens sont en train de crier à Dieu pour être sauvés. Savez-vous, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que c'est Jésus qui court après les gens pour les arrêter dans leur folie. Puis dire, viens à moi, je suis mort pour toi à la croix. Pourquoi tu choisis les ténèbres? Je t'aime. Je veux te sauver. Viens à moi. Et Jésus dit, malheureusement, il y en a peu. Il y en a peu. Peu vont venir à lui. Peu vont croire en lui. Et comme j'ai dit tantôt pour Hérode et Pilate, pour Hérode, Jésus est un amuseur public qui suscitait la curiosité par ses performances surprenantes. Pour Pilate, le gouverneur, Jésus était au mieux un juif idéologique zélé, inoffensif, qui ne représentait aucun danger pour Rome. Et au pire, une patate chaude. Un dossier encombrant qu'il aurait avantage à se débarrasser au plus vite et avec lequel il vaudrait mieux ne pas gaffer par crainte de mauvais présages. Parce que sa femme, vous savez, avait eu un songe et elle lui avait dit à Pilate, « Pilate, n'aie rien à faire avec ce juste, en parlant de Jésus, avec ce juste. » Et là, Pilate voulait le relâcher encore davantage. Mais en même temps, Pilate, même si Jésus lui a dit qu'il était la vérité, parce qu'à un moment donné, il y a eu tout un échange dans l'Évangile de Jean qui est très intéressant entre Pilate et Jésus. Mais encore là, Pilate, pour lui, même il a osé dire, « Tu sais pas, Jésus, moi, là, j'ai... moi, je peux, j'ai le pouvoir de te relâcher ou j'ai le pouvoir de te condamner. Alors, s'il vous plaît, là, fais attention, réponds-moi, aide-moi, là, ici, j'essaie de t'aider. » Jésus a dit, Pilate, mon pauvre Pilate, tout ce que tu as comme pouvoir, c'est mon Père qui te l'a donné. Et si mon royaume était de ce monde, ça serait une autre histoire. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. C'est tragique, vous savez, de rencontrer Jésus et de choisir d'aller dans l'autre direction. Pour vous, Jésus, ce matin, il est qui? Qui est Jésus pour vous? Qu'est-ce que vous allez faire de lui? Est-ce que vous le voyez comme le sauveur de votre âme et le Seigneur de votre vie? Jésus a dit ceci, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Moi, je ne peux pas attendre pour ce moment-là où Jésus va dire, « Père, j'aimerais te présenter Benoît. » Il m'a confessé sur la terre. Il a cru en moi. J'étais son berger. Il était ma brebis. Il était la joie de ma vie. Il est un de ceux pour qui j'ai donné ma vie. Père, est-ce que tu peux le recevoir en mon nom? Seigneur Jésus, tu nous vois chacun de nous ce matin ici. Tu connais le cœur de chacun de nous, Seigneur. Que nos cœurs peuvent se tourner vers toi ce matin, Jésus. Est-ce que tu peux nous faire la grâce d'être de ceux qui allons confesser ton nom? Faire la grâce de ceux qui allons s'attacher à toi d'un cœur tout entier, Seigneur. Parce que nous reconnaissons que ce que tu as fait pour chacun de nous est incroyable, Jésus. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as pris sur toi tous mes péchés, mes fautes, mes manquements, mes erreurs. Tu es la lumière, Seigneur. Je veux te suivre, Jésus. Je veux m'attacher à toi. Je veux t'aimer, t'aimer comme tu en es digne. Est-ce que tu peux ouvrir mon cœur, Seigneur Jésus, dans ta grâce? Est-ce qu'au lieu de préférer les ténèbres, je peux te préférer, toi, parce que tu es tellement attirant. Ta beauté surpasse tous les plaisirs de ce monde qui pourraient m'éloigner de toi. Ah, Seigneur Jésus, viens dans ta grâce. Viens rencontrer nos cœurs ce matin. Que nous ne te prenions pas pour acquis. Que nous ne soyons pas, Seigneur, indifférents vis-à-vis de toi. Mais au contraire, que ta beauté, Seigneur, soit devant nos yeux. Et que nos cœurs battent simplement parce que tu es là, parce que tu es vivant, parce que tu nous aimes et tu nous connais. Merci Seigneur, merci d'être fidèle, merci d'être celui qui veut nous faire grâce, nous secourir dans nos besoins. Nous nous tournons vers toi Seigneur ce matin. Entends la voix de ceux qui t'appellent et fais-leur entendre ta voix. En ton nom, Jésus. Amen.